Benny is money, ay. Benny is money, ay. Benny is money, c'est la révision des cons, ay. Benny is money, ay. Benny is money, ay. Benny is money, c'est la révision des cons, ay. Benny Limosa, Benny Two Belts, Benny Best in the World, univers au complet. Monday night Benny, Friday night Benny, deux fois semaine on est Benny par notre sauveur qui est Benny. On se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs. Une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour Benny. Benny is money, ay. Benny is money, ay. Benny is money, c'est la révision des comptes, ay.
Du studio B de C'est juste de la lutte, c'est votre super révision des comptes.
C'est la révision des comptes, ay.
Celle du vendredi 8 octobre 2021. Je suis Benny is money. Merci beaucoup d'avoir téléchargé ce podcast. Vous êtes aussi très nombreux à vous abonner à toutes les plateformes de la révision des comptes de la lutte, la chaîne YouTube, la page Facebook, les différentes plateformes de balado-diffusion. Alors, gros merci. Merci de continuer d'encourager le Vortex CJDLL comme vous le faites. Merci à vous, c'est très apprécié. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé à SmackDown, de ce qui s'est passé à AEW Rampage. On va revenir sur les tournois qui vont déterminer des nouveaux rois et reines de la WWE. Le booking assez rigolo de ces tournois. Et aussi, à Rampage, il faut revenir sur les décisions, les constructions de cartes qui sont peut-être un peu douteuses. Pas sûr qu'on avait encore une fois choisi le bon main event ce soir, donc on y reviendra un peu plus tard. Mais on va commencer par la révision de SmackDown Live. En direct du SAP Center à San Jose, en Californie, c'était l'épisode 1155 de SmackDown. Mais puisque SmackDown est maintenant à Fox, eh bien, il y a toujours cette espèce de nomenclature un peu bizarre, car une fois par année, il y a une première de la saison. Eh bien, c'était cet épisode, la première de la saison de SmackDown. Quelle saison? On ne le sait pas, mais c'est la première. Et ça commence sur les chapeaux de roue parce que c'est la signature de contrat entre Becky Lynch, Sasha Banks et Bianca Belair pour leur match triple menace à Crown Jewel, éventuellement déterminé qui sera la championne de SmackDown. Ben, ça commence très rapidement parce qu'on est en plein milieu de l'entrée de Bianca Belair et c'est elle qui fait son entrée dans le ring alors que Adam Pearce et Sonya Deville sont à la table pour signer les contrats. Pendant ce temps-là, Becky Lynch, elle, est déjà à une autre table installée au haut de la rampe, près de l'entrée des lutteurs. Et Sasha Banks, elle, est debout sur la table des commentateurs. Alors, c'est un très, très drôle de setup, un peu étrange, qui va mener seulement à une ligne. Vous allez comprendre pourquoi cette ligne-là a été dite et pourquoi on a fait tout ce setup. C'est un peu bizarre. Finalement, Becky a commencé les hostilités en envoyant à Bianca qu'elle était « loser », qu'elle avait perdu en 26 secondes, qui était sur une séquence de défaite. Les trois s'obstinent, s'envoient des vacheries. Sacha qui dit à Becky qu'elle est plus importante, que son spotlight est plus important. Donc, qu'il y a de la jalousie dans tout ça. Finalement, Bianca qui est dans le ring leur dit « Hey, si vous voulez qu'on règle ça, on va régler ça dans le ring. Moi, je suis dans le ring, je suis prête à me battre. Venez signer le contrat. » Alors, elle prend une chaise et assez difficilement, elle envoie la chaise par-dessus la troisième corde en direction de Becky Lynch. Mais pendant ce temps-là, Sasha Banks l'attaque dans le dos. Finalement, Becky se rend dans le ring pour essayer d'attaquer les deux. À pif et de pouf, à pif et de pouf. C'est le chaos qui s'ensuit. Tout le monde se bat. Finalement, Becky et Sasha sont dans le coin. Et là, Bianca Belair les saisit les deux en même temps pour exécuter un double KOD. Mais Sasha réussit à s'en sortir. Mais c'est sans avoir eu le temps de retomber sur ses pattes et de recevoir un coup de genou d'en face. Et finalement, elle tombe sur la table. Et pendant ce temps-là, Bianca avait encore Becky sur ses épaules. Alors, elle fait un KOD à Becky Lynch à travers la table et à travers Sasha Banks qui était couchée sur la dite table. C'est toujours le fun, le chaos. C'est toujours le fun de voir des segments au début de l'émission pour mettre un peu la table, nous exciter un peu sur le SmackDown. Pas sûr que tout ça était tout à fait logique J'ai pas trop compris pourquoi le setup du début, c'était un peu étrange. Au lieu de les voir tous être dans le ring, il avait l'air comme un peu partout, éparpillé. C'est assez étrange comme situation. Je suis pas sûr d'acheter totalement. Ce qui était un peu fou aussi, c'est que les fans n'étaient pas du tout derrière le fait que Becky et Sacha étaient heel. Les trois étaient presque autant salués et encouragés par la foule. Donc, on était dans une dynamique assez particulière où les heels essayaient d'être heels sans succès et que la babyface n'avait pas l'air nécessairement plus babyface que les autres. Donc, peut-être pas le meilleur segment au niveau de ce qu'ils ont voulu nous vendre. Je ne sais pas trop où ils s'en allaient. Mais la foule a vraiment semblé apprécier, puis des fois, c'est ça qui compte. Il y a un peu de chaos. Bianca qui passe ses deux adversaires au travers de la table. C'était correct. J'étais un peu ambigu de mettre ça soit dans la colonne des actifs ou des passifs. Je dirais que pour mon propos personnel, pour mon interprétation de ce qui s'est passé, je mettrais ça dans les passifs. Mais pour la réaction de la foule, je suis obligé de me tourner vers San Jose puis mettre ça dans la colonne des actifs. Ils ont réussi à les divertir et à les rendre heureux. Alors, tant mieux pour ça. Le premier match de la soirée, justement, c'était un match de qualification pour le King of the Ring entre Rey Mysterio et Sami Zayn. On va passer rapidement sur le tableau qui va nous mener à cette finale en Arabie Saoudite. Alors, du côté de SmackDown, Rey Mysterio affronte Sami Zayn dans le premier match de qualification, tandis que Cesaro va affronter Finn Balor. Mettons que ça va, là, c'est bon. C'est quand même pas si mal. C'est des bons affrontements. On verra bien ce qui va se passer. Du côté de Raw, et là que c'est de toute beauté, Kofi Kingston va affronter Jinder Mahal pendant que Xavier Woods va affronter Ricochet. Première conclusion ou première chose qui me saute aux yeux, Ricochet va avoir beaucoup de difficultés à être un babyface dans son affrontement contre Xavier Woods. Il n'y a pas grand monde qui va vouloir que Ricochet l'emporte. Puis en même temps, il y a eu une dynamique, une gimmick de King Ricochet. Donc, c'est comme un peu plate que ces deux-là vont se retrouver dans la première ronde et s'affronter. Mais bon. Ensuite, ben, il y a Kofi Kingston qui affronte Jinder Mahal. Donc, pour un éventuel affrontement entre Kofi et Xavier, ça va être peut-être ça. Ou sinon, ben, ce sera Jinder Mahal qui va tenter de battre deux fois le New Day back-à-back. Mais ce qui est de toute beauté quand on analyse tout ça, c'est que Kofi, Jinder, Xavier et Ricochet ont tous été sélectionnés par SmackDown. Alors, belle représentation de Raw dans ce tournoi King of the Ring qui, après les mouvements, après les changements du draft, vont se retrouver avec seulement Finn Balor et Rey Mysterio comme représentants de leur brand. Alors, bravo, ça a été bien pensé, ça, de la part de la WWE, de nommer personne qui est encore à Raw, ou presque. Alors, pas sûr de ce booking-là, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. C'est comme ça. Premier match, donc, c'est Rey Mysterio qui affronte Sami Zayn. Et pour Ray, dans une entrevue qu'il donne à Kayla en Gorilla Position, il dit que d'être le roi, c'est la deuxième meilleure chose après être champion de la WWE. Alors, mettant un peu de côté son titre par équipe, il me semble qu'il aurait pu être plus fin que ça. Et avec tout ce qui s'est passé durant les dernières semaines, ben Dominique refuse d'accompagner papa jusqu'au ring. Il dit: Papa, papa, tu es capable d'y aller toute seule contre Samy. Tu voulais pas m'accompagner parce que tu veux me laisser aller toute seule. Bien, moi aussi, je vais te laisser aller toute seule. C'est mieux comme ça. Alors, Dominique refuse d'aller avec papa. Papa est un peu confus dans son entrée. Il est comme: Ah, il viendra pas. Ah non. Ah, Comme fait saillant dans le match, Ray y est allé d'un Topekon Hero, suivi d'un Hurricane Rana en mouvement sur Samy. C'était de toute beauté, tombé sur ses épaules. Mais malheureusement, Ray va se retrouver en baseball slide. Sami va l'envoyer directement dans le poteau. Donc, ça va lui faire mal, très mal à l'épaule. Ce qui va provoquer la sortie de Dominique. Dominique, en voyant ça, il s'est dit « Je pense que je dois aller aider papa. » Alors, un peu plus tard, il y a eu un code red de la part de Ray sur Sammy pour un compte de deux. Finalement, Sportsnet a perdu le signal, c'était de toute beauté. Sammy est revenu ensuite pour enlever le coussin du coin. Alors, Dominique n'était pas content, a replacé le coussin dans le coin. Mais pendant qu'il faisait ça, Ray lui a dit « Non, va-t'en, débarque de là, enlève-toi, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, hey, petit gars, sac ton camp. » Ben là, Sammy en a profité, il a poussé Ray Mysterio contre son fils. Et ben, il a permis, ça a permis une belle finale en roll-up pour Sami Zayn, qui passe donc au prochain tour avec une belle victoire. Donc, match assez poche, je suis obligé de dire ça comme ça. 2$ sur 5. On continue cette belle rivalité entre les Mysterio. Ça va pas bien. Ça va pas bien pour Dominique, qui n'est pas dans une belle passe. Donc, un 2$ sur 5. Et je mets ça dans la colonne des passifs, parce que les maudits roll-up, c'est-tu plate. Par la suite, on a eu une entrevue, petite entrevue avec Kayla Braxton et Seth Rollins. Seth qui se plaint de ne pas avoir eu de réponse à son défi. Un peu plus tard, il va aller voir Adam Pearce et Sonya Deville pour leur dire que si Edge ne répond pas à son défi de l'affronter, ben il va être très très fâché et il va scraper toute la fin de SmackDown. Alors c'est toute une menace. Il leur remet même une petite photo de Edge et de Beth Phoenix qu'il a volée lors de son invasion domicile de la semaine passée. Maintenant, du côté des femmes, on passe au tournoi pour couronner une nouvelle reine. Et on va passer au travers aussi du tableau. Le tableau des femmes qui est tout aussi relevé que le tableau des hommes. Donc, du côté de SmackDown, on a des affrontements entre Toni Storm et Zelina Vega et l'affrontement entre Liv Morgan et Carmella. Et du côté de Raw, c'est l'affrontement entre Doudrop et Natalya. Tandis que Dana Brooke affrontera Shayna Baszler. Alors, c'est un niveau très relevé. Très relevé. Mais c'est pas grave parce qu'on a des Toni Storm, Liv Morgan, qui devraient bien paraître. Et ça va leur permettre d'être over. Et qui sait, peut-être d'être couronnée une nouvelle reine. Toni Storm qui a fait une petite promo. Petite promo vignette avant son match pour nous dire que elle allait gagner et elle allait être la reine, pareil comme Joan Jett, Bruce Springsteen, et Madonna. Alors, des belles références pour une Toni Storm née en 95, on le rappelle, parce que sa mère, ça devait être sa playlist, puis tout, puis elle capote sur les années 80. Alors, tout ça, ça la rend très over, tellement qu'un code red de Zelina Vega en moins de 3 minutes a permis à Zelina Vega de l'emporter. Alors, bye bye Toni Storm, tu ne seras pas la reine. C'est de toute beauté. Mais c'est ça. Alors, 2$ sur 5. Et Zelina Vega qui est sur une belle séquence de victoire. Probablement, ça prenait une heal pour qu'on affronte Liv Morgan un peu plus tard dans le tournoi. Alors, on va dire que ça a servi à quelque chose, mais pour l'instant, c'est quand même très passif. Ensuite, on a eu une promo de Roman Reigns. Roman Reigns, 403 jours de règne comme champion universel. Roman qui, au début de sa promo, vante le bon travail de Paul Heyman, lui qui a réussi à faire en sorte que les Usos soient repêchés à SmackDown. Pas facile. Mais il veut que Paul dise la vérité. Pendant ce temps-là, la foule scande Suplex City. Mais Roman a une bonne réplique en disant que Suplex City n'existe pas sur l'île de la pertinence. Roman demande à petit Paul d'avouer qu'il est le responsable du fait que Brock est rendu un agent libre. Mais Paul, il patine, il essaie de justifier, c'est pas clair. Blablabla. Puis là, il dit, ben, tu sais quoi, j'ai été accusé de beaucoup de choses dans la vie, mais je n'ai pas été accusé d'être stupide. Faire tout ça, ce serait complètement stupide de faire ça, de faire ce geste-là à l'aube de Crown Jewel. Je serais vraiment stupide. Dans le fond, Brock, il fait juste mentir pour essayer de jouer dans la tête. Il sait que dans le fond, à Crown Jewel, la bête va être conquise. Et il peut pas rien faire. T'sais. Et là, il essaie n'importe quoi. Alors, Roman le prend au mot, mais en veut plus. Et il veut pas que Paul le lui dise à lui, mais le dise plutôt à Brock Lesnar. Donc, il demande à Paul d'y aller d'une élocution envers Brock Lesnar en regardant la caméra. C'est ce que Paul exécute. Donc, il lui donne du crédit en disant qu'il a été brillant de faire tout ça, mais c'est pas suffisant parce qu'à Crown Jewel, il va rencontrer son homme. Et puis, un peu la même conversation qu'il a eue à l'aube de son match contre Undertaker avant WrestleMania 30, lui a dit « Tu vas montrer à Undertaker que tu es celui qui va mettre fin à sa séquence. » Puis, il va rencontrer son homme quand il va rencontrer Brock Lesnar. Ben, Brock Lesnar, c'est ton moment. Tu vas rencontrer ton homme et tu seras conquis à Crown Jewel. C'est le Tribal Chief qui va gagner. Et ce n'est pas simplement une prédiction. C'est un spoiler. Et tu peux y croire. Alors, c'est Paul Heyman. Paul Heyman, la vedette de ce segment. La vedette de SmackDown. Le beaucoup bien. Quelle belle performance, encore une fois, de Paul Heyman comme acteur. Une chance qu'il est là. Parce que sinon, je pense que ce serait mince, cette rivalité entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Mais c'est lui qui fait tout le travail. C'est ce qu'on veut voir. On veut voir dans quel état Paul Heyman va se retrouver. Si ça va être compliqué et tout ça. Alors, beau travail de la part de Paul, qui mérite le beaucoup bien de la soirée. Passons maintenant au deuxième match de qualification. Comme je vous en parlais tantôt, Carmella qui affronte Liv Morgan. Eh bien, comme Zelina Vega avait remporté le premier affrontement, on pouvait s'attendre à ce qu'une babyface l'emporte. Carmella s'est encore une fois fait installer son masque de protection pour se protéger le visage. Eh bien, vous ne le croirez pas, mais en moins de 2 minutes, elle a réussi à faire un super kick et l'emporter 1-2-3 sur Liv Morgan. Donc, Zelina Vega va affronter Carmella en finale du côté de SmackDown pour déterminer qui sera la prochaine reine. 1$ sur 5 et j'ai doublement le goût de mettre ça dans la colonne des passifs. Liv Morgan qui avait remporté à Extreme Rules dans le match sur le pre-show. Là, aujourd'hui, 2 minutes, même pas. Pif, paf, pouf. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, c'est épouvantable. Que... Si on faisait un sondage, rapido, puis qu'on demandait est-ce que vous préféreriez voir un match entre Toni Storm et Liv Morgan ou Carmella et Zelina Vega, je pense qu'on aurait 99% de gens qui voudraient voir Toni Storm affronter Liv Morgan. Eh bien, la WWE nous donne toujours le choix un peu merdique qu'on a vu 1000 fois, qu'on se fout éperdument du résultat, qu'on n'en a absolument rien à foutre, qui met personne over, qui met aucune nouvelle arrivante over, qui met aucune personne qui a un tout petit peu la foule de son côté, la foule qui aimerait ça encourager Liv Morgan. Mais non! Alors on lui donne une autre raison de vouloir sacrer son camp et aller retrouver Ruby Soho. J'espère qu'il y a un groupe punk qui a une musique qui est prête pour Liv Morgan pour qu'elle puisse trouver un nouveau nom et trouver une nouvelle chanson. On y souhaite. Dans un petit segment cocasse, il faut en parler, il y a eu une entrevue de Mace. Mace qui est maintenant tout seul, pas de T-Bar, mais il garde quand même le nom de Mace, alors bravo à lui. Et il nous dit qu'il n'est pas à SmackDown pour compétitionner, car il n'a pas de compétition, mais il est là pour annihiler. Eh bien, il n'a pas tort, parce qu'effectivement, le premier qui va annihiler, c'est probablement Mace. Alors, j'ai l'impression que sa carrière s'en va vers l'annihilation. C'est mon feeling. Alors, bravo à lui. Ensuite, on a un autre segment pour nous décourager mes raids. C'est Happy Corbin et Madcap Moss qui viennent faire le Happy Talk pour le Happy Hour et tout. Donc, Madcap Moss raconte encore une maudite bonne blague de... Ben, je peux même pas la traduire parce que c'est vraiment en anglais. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme instrument de musique à la salle de bain? Un tuba toothpaste. A tube of toothpaste. Comme un tube de pâte à dents. Alors, naturellement, K.O. ne pouvait pas laisser passer ça. Dans une drôle de série C'est Street Profits qui étaient supposés être les invités de Happy Corbin et de Madcap Moss. Ils ne se sont jamais présentés finalement parce que K.O. a attaqué. Donc, il s'en est pris à Madcap Moss qui est venu à sa rencontre. Il est rentré dans le ring pour tapocher sur Corbin, mais finalement, à deux contre un, ça finit par être trop. Les deux ont été trop pour Kevin Owens. Et l'ont tapoché, l'ont battu. Et l'humiliation de Kevin Owens se poursuit. On lui souhaite bonne chance à K.O. Ça va être un long 3 mois. Hein? On le sent que les choses ne vont pas super bien aller. Enfin. Par la suite, il y a Naomi qui va interpeller Sonya Deville dans le bureau avec Adam Pearce. Donc, elle est un peu fâchée de ne pas avoir été inscrite dans le tournoi pour couronner la nouvelle reine. Mais Sonya lui dit qu'elle n'a pas d'affaires là, qu'elle ne devrait même pas être sur le roster de SmackDown, ni à Raw, ni nulle part. Finalement, elle ne l'aime pas pantoute. Mais elle lui dit qu'elle va avoir un match la semaine prochaine, puis ça va être contre Sonya Deville. Alors, un match entre Sonya et Naomi la semaine prochaine. Donc, c'est le retour de Sonya dans le ring après plus d'un an et quelques d'absence. On va voir ça. Ça s'est fait un peu garrocher. J'aurais aimé qu'on utilise peut-être la technique de Sonya qui envoie d'autres lutteuses. Mais non, tout de suite, le match entre Sonya Deville et Naomi. Une drôle de décision, mais bon, ça sera sûrement intéressant. Il y aura un peu de rivalité, un peu de hang dans ce match-là. On se le souhaite. Le dernier match de la soirée maintenant, c'est Finn Balor qui affrontait Cesaro dans le deuxième match de qualification. Donc, les deux, Babyface, se donnent une poignée de main avant le match. Mais dans un match qui avait sur papier tout pour être un classique, finalement, c'est un match qu'on dirait qu'il n'a pas levé beaucoup. C'est un match où ça a été un peu redondant. Beaucoup de uppercuts, beaucoup de coups de pied. Il y a comme un petit manque au niveau de l'intensité dans ce match-là. On dirait que les deux, c'était bien ce qu'ils faisaient, mais c'était un peu de base, un peu ce à quoi on est habitué. Finalement, c'est la première fois que Balor est monté sur la troisième corde pour le coup de grâce. Cesaro est sorti en bondissant pour faire un gros European uppercut. Il y a eu beaucoup des uppercuts dans ce match-là. Mais finalement, Balor a pris le dessus, a réussi son Topekon Hero, a ramené Cesaro dans le ring, l'a envoyé finalement dans le coin avec un dropkick et a terminé avec le coup de grâce, sans aucun traumatisme de ce qui s'était passé, n'a même pas titubé sur les cordes, ne s'est pas dit « Oh, d'un coup que, ah, i, ah, non ». Ça a été facile. Donc, une victoire correcte. J'ai quand même mis ça dans les actifs, un match correct, sans plus, entre Finn Balor et Cesaro. C'est donc Finn Balor qui l'emporte et qui va affronter Sami Zayn la semaine prochaine pour déterminer qui sera le représentant de SmackDown à Crown Jewel. Alors, vous savez où sera Crown Jewel? Eh bien, si vous pensez que Sami Zayn a des chances de gagner, je ne sais pas si vous n'êtes pas vraiment au courant de ce qui se passe depuis des années. Alors que Sami ne fait jamais le pay-per-view de Crown Jewel. C'est de toute beauté. Hein? C'est vraiment de toute beauté. Alors, Finn Balor qui passe en finale va probablement affronter Xavier Woods, Jinder Mahal, je ne sais pas, Ricochet. Je sais pas trop. C'est un. Essayez de comprendre le booking de ce tournoi. Je sais pas. C'est assez particulier. Mais bon, Finn Balor qui va se retrouver en finale. A des bonnes chances de gagner quand même. Le King. Donc le prince Finn Balor qui va devenir roi. Alors, un peu comme Baron Corbin, qui avait passé de Baron à King. Eh bien, le prince va devenir roi. Alors bravo à Finn Balor. Et pauvre Xavier Woods. Passez proche. mais ça sera pas King Xavier. Le dernier segment de la soirée, c'est une promo de Seth Rollins qui rentre dans le ring pour défier Edge, un peu comme il le fait depuis quelques semaines. Donc, Rollins est prêt à tout, n'importe quelle stipulation, n'importe où, n'importe quand. Il peut même affronter Edge dans son propre salon, s'il le veut. Alors, pourquoi pas? Mais naturellement, Edge ne répond pas à son appel. Donc, revient sur le fait que le Rated R Superstar n'est plus, qu'il a été terminé par Rollins avec un stomp au Madison Square Garden, et que là, Edge n'est en fait qu'un peu heureux qui déçoit ses fans, qui déçoit sa famille, ses filles qui le voyaient comme un modèle. Maintenant, c'est terminé, il n'est plus un modèle, ne peut plus être un modèle pour eux, mais finalement, Edge arrive, on voit une image... des images de lui arriver en arrière-scène avec un camion. Et ben il se dirige finalement au ring. Alors Rollins a la peur, il s'en va chercher une chaise, mais quand il remonte dans le ring, Edge arrive à toute vitesse, puis il lui fait un spear pour le ramener jusqu'en bas du ring. Les deux s'enfargent dans le casse d'écoute de Pat McAfee en voulant passer par-dessus la table des commentateurs. Ça va pas bien pour Pat. C'est pas drôle. Finalement, Edge va briser un barreau de chaise, veut essayer de faire le crossface à Rollins dans le ring, mais finalement, Rollins va s'en sortir avec un coup de coude et quitter le ring. Alors, Edge prend le micro et dit à Rollins, « Toi, moi, Hell in a Cell. » Ben oui, parce que c'est la saison, on est en octobre. On oublie parce que Crown Jewel ne s'appelle pas Hell in a Cell. On oublie que c'est le mois où il faut qu'il y ait un Hell in a Cell. Mais au moins, dans ce cas-ci, c'est un peu beaucoup justifié. Donc, Rollins, qui a la chienne de sa vie, se dit « Oh non, c'est pas vrai. Ça doit être à cause de tout ce qui s'est passé dans son dernier match Hell in a Cell. » Donc, Rollins est pas content. Et c'est comme ça que l'épisode se termine. Alors, bon segment pour terminer entre les deux. C'est vraiment Edge qui fait tout le travail parce que la promo de Rollins, c'était pas super, c'était un peu redondant, mais au moins toute l'intensité que Edge a amenée au ring, ça c'était bon, c'était divertissant. Donc j'ai mis ça dans la colonne des actifs et pour une fois, on va utiliser la stipulation de Hell in a Cell de la bonne manière avec une rivalité qui mérite. C'est sûr qu'on pourrait discuter de l'invasion de domicile la semaine dernière qui était peut-être pas super réussie. Mais au moins, ça justifie le Hell in the Cell à Crown Jewel. Donc, un épisode un peu décevant au niveau du booking de la part de la WWE. Encore une fois, oui, les têtes d'affiche, il y a du bon booking, mais quand on parle des mid-card, quand on parle de la division féminine, c'est vraiment pas excellent. Des drôles de décisions de nous donner un match heel contre heel. Zelina Vega, Carmella, très, 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 très mauvaise décision. Je ne sais pas pourquoi on veut faire apparaître Liv Morgan, Toni Storm aussi faible. C'est vraiment dommage pour les deux, mais bon. C'est ça, des fois, hein, faut accepter le booking, mais dans ce cas-ci, je pense pas du tout que c'était des bonnes décisions. Donc, un SmackDown qui passe pas la note, à mon sens, qui mérite pas plus qu'un 2,25 sur 5 cette semaine. On passe maintenant au 9e épisode de AEW Rampage en provenance toujours de Philadelphie. À la table des commentateurs pour cet épisode, on avait Excalibur, Taz et Chris Jericho. Un bon épisode pour les trois. J'ai trouvé qu'avec Jericho à la place de Ricky Stark, c'était plus balancé. Il y avait de l'expérience. C'est sûr qu'ils n'ont pas eu beaucoup de choses à dire, mais c'était quand même très intéressant de les entendre, les trois. Une bonne chimie entre les trois au micro. Le premier affrontement de la soirée, ben c'était CM Punk qui affrontait Daniel Garcia. Et on a eu deux segments de Mark Henry dans cet épisode. Donc, une autre entrevue de Mark Henry avant le match où Garcia et 2.0 ont traité CM Punk de menteur du fait qu'il profitait encore de son retour et que Garcia allait terminer le Love Fest ce soir. Punk qui nous dit qu'il n'est pas revenu à la lutte c'est la lutte qui lui est revenue. Et il va juger Garcia dans le ring et du fait qu'il a essayé de l'attaquer à Chicago, lui va terminer le travail à Philadelphie. Donc Punk, qui est de retour dans le ring en pantalon, lui qui avait lutté en short contre Will Hobbs, donc retour en pantalon, les pantalons qu'il portait contre Darby Allin. C'est un match qui s'est joué un peu en deux temps. Au début, Punk avait beaucoup l'avantage, profitait du rythme, il était capable de vraiment jouer avec la foule, faisait des scoop slams et il en profitait. Mais à un moment, il a voulu appliquer le go to sleep, mais il y a eu de la distraction de 2.0 qui ont permis à Garcia de s'en sortir. Et là, ben après, on a attaqué et dans le dos de l'arbitre, le genou droit de CM Punk. Alors, beaucoup d'attaques sur le genou. Et par la suite, ben, Garcia a complètement focalisé ses attaques sur les jambes de Punk. Donc, même à un moment où les deux ont fini par s'échanger coup de poing à gauche, à droite, c'était toujours, dans le fond, pour essayer d'après de jouer sur la jambe de Punk qui n'était pas capable nécessairement de se tenir debout aussi bien qu'il l'aurait voulu. Il y a eu un Olympic Slam de la part de Garcia pour un compte de deux, un Pepsi Twist de la part de Punk, lui aussi pour un compte de deux. Garcia a ensuite contré une autre tentative de GTS avec un sharpshooter. Punk a fini par s'en sortir. Et là, ben, à tour de rôle, les deux membres de 2.0 sont montés sur le tablier. Et puis Garcia s'est retrouvé. Punk l'a envoyé les deux fois de chaque côté du ring dans les membres de 2.0 avant de monter sur la troisième corde et de s'élancer en crossbody sur le trio à l'extérieur. Finalement, de retour dans le ring, il y a eu un pile driver de CM Punk suivi du Anaconda Vice pour faire taper Garcia en 12 minutes environ. Donc, belle victoire de CM Punk, belle victoire où il a vendu pour une bonne partie du match le fait qu'il était blessé au genou. Et c'est un bon match. Garcia a quand même aussi très bien paru dans ce match-là. Donc, j'ai donné un bon 3,5 sur 5 dollars à ce match et j'ai mis ça dans la colonne des actifs. Par la suite, il y a eu une petite rencontre entre Leo Rush, Matt Sydal et Dante Martin en coulisses avec Tony Schiavone. Matt Sydal s'est comme plaint du fait que Leo Rush avait du rêve à vendre à Dante Martin. Mais finalement, Leo a dit que non, ce n'était pas du rêve, que c'était sérieux son affaire et que c'était tellement sérieux qu'il allait même aider Matt Sydal. Donc, il lui a booké un match contre CM Punk la semaine prochaine à Rampage pour prouver sa valeur. Donc, Sydal a dit qu'il allait profiter de l'occasion et montrer qu'il était capable d'affronter des CM Punk. La dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2012 que les deux s'étaient affrontés pour le titre de la WWE à l'époque. Donc, ça va être intéressant de voir ça la semaine prochaine à Rampage. Le deuxième match de la carte, c'était les Lucha Bros qui affrontaient The Acclaimed, donc Max Caster et Anthony Bowens. The Acclaimed qui ont attaqué les Lucha Bros avant même le son de la cloche. Finalement, Phoenix a repris le dessus, mais en tentant un suicide dive, ben, c'est Bowens qui l'a attendu avec le boombox alors que l'arbitre avait le dos tourné. Finalement, Penta a subi un peu l'attaque des deux membres de The Acclaimed, mais il a réussi à s'en sortir, redonner le hot tag à Ray Phoenix qui était tout feu tout flamme, a même réussi un double cutter sur les deux, Max Caster et Anthony Bowens. Finalement, les The Acclaimed ont repris le dessus, mais au moment où Caster voulait exécuter le mic drop, c'est Penta qui l'a fait tomber. Et par la suite, ben, les deux membres des Lucha Bros ont réussi le package pile driver sur Anthony Bowens pour la victoire. Un court match de 5 minutes. Bon match de petit feu d'artifice, je dirais, comme à l'habitude. Les Lucha Bros qui sont toujours très très bons. The Acclaimed qui ont bien paru, mais dans un match de 5 minutes, c'est sûr que c'est difficile de nécessairement briller. Mais ils ont réussi à faire le boulot, donc c'était quand même un bon match. J'ai donné 3,25$ à ce match et j'ai mis ça dans la colonne des actifs. Le match suivant, dans un match très court, Jade Cargill qui affrontait Sky Blue et qui l'a emporté en une mince petite minute. Sky Blue qui a essayé, mais qui n'a pas réussi à faire grand-chose contre Jade Cargill. Elle qui s'est fait saisir dans la position du Glam Slam, le Jaded de Jade Cargill, qui pour la victoire, donc un match très court d'une minute, un peu difficile à noter. Après, Cargill a voulu poursuivre l'attaque sur Sky Blue, mais Thunder Rosa est arrivée avec une chaise, ce qui a donc repoussé Cargill, pardon. Et c'est comme ça que le segment s'est terminé. Thunder Rosa qui voulait venger l'attaque de coup de chaise durant le match triple menace de la semaine passée. Donc, difficile de noter un match comme celui-là. C'était vraiment une parfaite pause-pisse pour mettre la table pour le main event ce soir. Donc, la semaine prochaine, on a déjà annoncé quelques matchs pour Rampage. On aura Ruby Soho face à The Bunny, CM Punk qui va affronter Matt Sydal, le Inner Circle va affronter Man of the Year et Junior Dos Santos en compagnie de Jorge Masvidal dans leur coin. Et à Dynamite, on aura mercredi Dante Martin face à Malakai Black, les Lucha Bros qui vont affronter une équipe mystère choisie par Andrade El Idolo pour les titres par équipe AAA. Et Bryan Danielson va affronter Bobby Fish, un autre match pour Bobby Fish. Et il y aura les débuts ou les explications, en fait, du World Title Eliminator Tournament qui se terminera à Full Gear. Donc, on aura plus de détails sur ce tournoi à Dynamite ce mercredi. Place maintenant à la finale de ce Rampage. Une drôle de décision, quand je vous disais que des fois dans la construction de cartes, c'était un peu particulier. On a décidé de mettre en grande finale Brian Cage face à Ricky Starks. Donc avant le match, il y avait la petite entrevue habituelle avec Mark Henry. Starks qui voulait prouver qu'il allait être le meilleur, alors que Brian Cage voulait prouver que personne n'était meilleur que lui. Alors ça mettait la table pour ce match. Starks qui a voulu entrer dans le ring avec une chaise, mais Cage a tout de suite mis le pied dessus, il en a empêché. Et donc, il a pris rapidement l'ascendant, et Cage a été le premier à donner des coups de chaise à Ricky Starks. Donc, à le voir, Cage beaucoup plus gros, beaucoup plus fort, et donner les premiers coups de chaise, ça devenait un peu difficile d'avoir de la sympathie pour lui. Donc, je sais pas, c'est un drôle de booking, ce match-là. Finalement, Cage a entré une poubelle, une queue de billard, un tuyau de plomb dans le ring. Et c'est ce qui a permis à Starks de reprendre le dessus parce que avec la queue de billard, il a asséné un coup à Brian Cage. Et bien, toute la période où on était picture-in-picture, c'est pas mal Ricky Starks qui, grâce à ça, a eu le dessus. Mais finalement, il a fait une erreur et il a laissé un peu trop de temps à Brian Cage qui est revenu avec un super kick et l'attaque de poubelle pour reprendre l'ascendant. Il a voulu en finir, mais Hook, suivi de Hobbs, sont eux aussi intervenus sans succès, mais assez pour distraire Cage qui a subi un spear de la part de Ricky Starks et qui est tombé sur le tuyau de plomb. Starks pensait avoir la victoire, mais Cage s'est relevé au compte de deux. Finalement, Cage a appliqué son discus lariat. Pensait lui aussi avoir la victoire après avoir envoyé Starks dans une chaise qui avait été placée dans le coin. Mais finalement, Hobbs est venu empêcher le tomber. Et Hook, lui, est allé donner un low blow à Brian Cage, ce qui a permis à Ricky Starks d'appliquer son Rochambeau pour la victoire et Starks qui avait le front fendu, qui pissait le sang. Alors, 1, 2, 3 en environ 11 minutes pour cette victoire de Ricky Starks, qui a eu besoin naturellement de l'aide de Team Taz pour l'emporter. Alors, c'est un match correct. J'aurais vraiment pas mis ça en finale. Je ne pense pas que la foule était nécessairement super grunky de voir cet affrontement-là. On dirait qu'on avait hâte que ça arrive juste pour pouvoir passer à autre chose. Mais bon, c'était logique que Ricky Starks conserve son titre de FTW, un titre qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui a sa raison d'être dans Team Taz. Donc, belle victoire de Ricky Starks. Un match correct sans plus. J'ai de la misère à lui donner la note de passage. Donc, je donnerai un 2,75$ à ce match. Et malheureusement, parce que ça a été placé dans le main event, j'aurais plutôt placé le match entre les Lucha et The Acclaim. Je vais mettre ça dans la colonne des passifs. Donc, somme toute, c'était un épisode correct de Rampage, mais sans plus. Des bons matchs pour commencer. Le match de CM Punk, probablement le meilleur match des 3 ou 4, si on compte le squash de Cargill avec Sky Blue. Pour le reste, c'est un épisode qui se consomme bien, qui se consomme vite, mais qui ne passera pas à l'histoire. Et je ne sais pas au niveau des codes d'écoute, tout ça. Pour l'instant, on est un peu en pente descendante du côté de Rampage. Je ne sais pas si de ramener CM Punk aussi à chaque semaine, si c'est nécessairement la meilleure des idées. Probablement que le match de Inner Circle contre Men of the Year sera très bon la semaine prochaine. J'ai bien hâte de voir avec Junior Dos Santos, Jorge Masvidal et tout. J'ai hâte de voir la dynamique qu'on aura dans ce match-là. Mais c'est pas donc un Rampage qui va passer à l'histoire. Je donne la note de 3$ sur 5 pour ce Rampage. C'est comme ça que se termine cette révision des comptes, la super révision du vendredi. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous pouvez toujours rattraper les autres épisodes de cette semaine. On a eu le spécial du draft à Raw et SmackDown, ainsi que la review en compagnie de Pee-wee et de Guillaume sur AEW Dynamite, un autre très gros épisode cette semaine. Alors, vous pouvez toujours aller écouter ça. Sinon, allez voir sur la chaîne YouTube les podcasts en version vidéo et nous suivre en direct chaque semaine. Donc, vous pouvez aller vous abonner pour pouvoir réagir avec nous à chaud à 22h15 après Dynamite. Donc, merci beaucoup. Passez un excellent week-end. Nous, on va se retrouver exceptionnellement mardi parce que c'est l'action de grâce et on profite du petit congé, la longue fin de semaine. Donc, au lieu d'être lundi soir, ce sera plutôt mardi soir que je vais enregistrer la révision des comptes de Raw. Donc, allez vous abonner à la chaîne YouTube pour savoir quand je serai en direct avec vous. Merci beaucoup, bon week-end et à mardi pour Raw.
Béni et élé, yeah, depuis le Patreon. Béni et élé, c'est la révision des comptes. Béni et élé, yeah, depuis le Patreon. Béni et élé, c'est la révision des comptes. C'est la révision des comptes. Production CJDLL, mais si je suis honnête avec toi, Béni fait tout ça tout seul. Ben oui, tout ça, tout seul. Mais ce soir avec Pee-wee, Party, Money, Ricky Bobby, des pétards qui pètent, puis Sting qui taille, c'est fait des bonnes histoires, puis des stats. Benny Dynamite ou Badon Benny Rampage. La RDC c'est pour les TV, check les chiffres sur leur pay. Benny et Elie, y'a depuis le Patreon. Benny et Elie, c'est la révision des comptes. Benny et Elie, y'a depuis le Patreon.